BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à toutes et à tous. Ce sont les vacances scolaires d'automne dans 10 des 16 Länder allemands cette semaine. Certains élèves sont en colonie, d'autres profitent chez eux des derniers rayons de soleil en extérieur avant l'hiver ici. D'autres encore planchent sur leurs devoirs de vacances. Et pendant ce temps-là, une pétition prend de l'ampleur sur Internet. Pétition demandant à ce que l'enseignement de l'histoire coloniale allemande devienne obligatoire dans les écoles. Alors pourquoi, comment ? Eh bien on en parle dans un instant. Et puis dans 5 minutes, direction l'Espagne, où le secteur de la musique et du spectacle flamenco que vous entendez derrière nous souffre la cause, encore elle, la pandémie de coronavirus. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, bienvenue. On est parti, los geht's. Des dizaines de milliers de signatures déjà, des passages dans les médias nationaux. La résonance de la pétition dont on parle aujourd'hui est toujours plus forte en Allemagne. Pétition lancée dans de très nombreux Länder pour demander que l'enseignement sur le colonialisme allemand devienne obligatoire dans toutes les écoles d'Allemagne lors des cours d'histoire. Car si les histoires du massacre des Herero et des Nama ou des luttes d'indépendance contre le colonialisme allemand sont parfois enseignées dans les écoles, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, pas partout en tout cas. C'est ce que veut changer Abigaïe Fuga, qui a donc lancé cette pétition en ligne dans sa région, à Cologne, dans l'ouest du pays.
Ce qui est actuellement enseigné dans les écoles ne suffit pas. Il faut donc revoir les manuels et les programmes scolaires. Si les enfants noirs sont assez âgés pour faire l'expérience du racisme, alors les enfants blancs sont assez âgés pour apprendre ces choses-là.
Un thème qui tient à cœur à cette colonnaise née de parents ghanéens. Elle reçoit de très nombreux soutiens depuis plusieurs semaines, mais pas que.
La plupart des critiques viennent des enseignants. Ils sont censés être progressistes, mais font obstacle. Ils nous accusent, nous, notre mouvement allemand, de ne pas tenir compte du fait que l'histoire coloniale fait déjà partie du programme d'études. Sauf que le problème est que ce n'est pas obligatoire dans les programmes.
En cause, l'organisation de l'enseignement en Allemagne. Les programmes ne dépendent pas d'un ministère central à Berlin, dans la capitale, mais de chaque ministère fédéral dans les 16 Länder. Et résultat, parfois l'histoire de l'Empire colonial allemand est au programme, parfois c'est évoqué rapidement seulement, parfois pas du tout. Un problème que pointait déjà il y a quelques mois sur notre antenne Jacob Feugel, historien et directeur du Centre de recherche en sciences humaines et sociales, le Centre Marc Bloch à Berlin.
Le colonialisme allemand est généralement évoqué lors de l'enseignement sur le Kaiserreich et l'impérialisme européen, mais de façon assez superficielle en général, ce qui fait qu'une bonne partie en fait, des élèves allemands peuvent sortir de l'école sans vraiment avoir appris grand-chose là-dessus.
Les cours d'histoire en Allemagne se concentrent souvent sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah et les meurtres de millions de Juifs, ou encore la guerre froide qui suivra. Il reste donc souvent peu de temps pour le reste. Pourtant, certaines écoles dégagent déjà des heures d'enseignement pour cela. Et les professeurs impliqués insistent sur la nécessité, l'utilité de ces heures consacrées à l'histoire coloniale. À Hambourg, par exemple, dans le nord de l'Allemagne, la professeure Imka Stallmann ne se verrait plus enlever le sujet de son programme dans son lycée.
Nous traitons le thème de l'histoire coloniale allemande de manière relativement intensive depuis environ 15 ans avec les grands élèves, ceux de second cycle. C'est un sujet qui est indispensable pour comprendre beaucoup de questions internationales d'actualité.
Et le lycée d'Imka Stallmann est un modèle pour ceux qui veulent que les écoles allemandes s'engagent davantage dans l'enseignement de l'histoire coloniale allemande. Des échanges entre des élèves allemands de Hambourg et des élèves d'anciens territoires coloniaux à Dar es Salaam en Tanzanie ont même été mis en place les dernières années. Alors avec leur pétition, Abigaïe Fuga et des autres militants ne demandent pas que des échanges soient mis en place systématiquement, mais ils et elles demandent une révision des programmes, la mise à disposition de matériel et de personnel formé pour parler de cette histoire dans les écoles systématiquement. En parallèle, il faut travailler et supprimer les perspectives eurocentriques des cours d'art et d'histoire, demandent les militants. En clair, mettre fin à l'idée d'une Europe supérieure aux autres cultures. Dans le scolaire et ailleurs, c'est tout un programme. Melchi Vepouyem sur la DW, musicien camerounais installé en Allemagne. Il chante en bamoun, en anglais et en français. Il vient de sortir son nouvel album Montero. Il était d'ailleurs l'invité du magazine Pulsation cette semaine avec Yann Durand pour en parler. Vous trouvez les liens pour écouter le podcast de cette émission et la musique de Melchi sur la page de ce podcast dans la médiathèque de la DW.
Joaka, Joaka, depuis très longtemps, je viens de loin, j'ai les pieds pleins de poussière, j'ai un sac qui est presque vide, je veux que tu m'accueilles un peu chez toi, just try to feel what I feel, so we may have one face for a moment, come closer, touch me.
Allemagne, deuxième partie, reportage international. On part en Espagne désormais. Face à la pandémie de coronavirus, certaines villes ont remis là-bas des confinements en place, pas toujours bien acceptés. Certaines restrictions de circulation atterrissent même devant la justice, comme à Madrid ces jours-ci. En attendant, d'accord ou pas avec ces mesures, les professionnels du flamenco souffrent. Des salles emblématiques qui font vivre cette musique traditionnelle sont fermées depuis des mois. Les touristes étrangers aux abonnés absents. Certaines salles en grande difficulté financière ont même déjà définitivement mis la clé sous la porte. À Barcelone, le flamenco à l'agonie. C'est un reportage d'Henri de la Guéry.
J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de danser à nouveau et de montrer aux gens ce que je ressens vraiment.
À 18 ans, Gemma Amaya est l'un des grands espoirs du flamenco espagnol, mais depuis 7 mois, elle danse chez elle, dans l'appartement exigu de ses parents en banlieue de Barcelone. Avant l'épidémie, la gitane, grande, aux cheveux bruns, se produisait en spectacle plusieurs fois par semaine.
J'étais habituée à faire ce que j'aime, à danser et à travailler au tablao. Maintenant que je ne le fais plus, ça me manque énormément. Je me rends compte parce que c'était ma routine. Et là, c'est comme si ma vie s'était arrêtée. Évidemment, ce n'est pas la même chose de danser pour sa famille. C'est sympa, bien sûr, mais ils en ont marre de me voir danser. Devant un public étranger qui s'intéresse au flamenco, c'est autre chose. Ils vibrent et c'est incroyable.
Gemma est devenue professionnelle le jour de ses 16 ans. Le Covid est un coup d'arrêt dans sa jeune carrière. Pour sa maman, Susana, sa plus grande admiratrice, pas facile de gérer la frustration de sa fille.
Regardez, vous pouvez le voir, mon carrelage est cassé car elle n'arrête pas de danser. Et puis quand je lui dis « Gemma, mets la table », voilà ce qu'elle fait. Gemma range la cour ? Oui, maman. Mais quand elle fait la vaisselle, elle se met à danser. Et c'est comme ça toute la journée.
Gemma s'est révélée au tablao de Carmen. Chaque soir, cette salle emblématique de Barcelone faisait le plein. 150 personnes venaient dîner et profiter d'un spectacle si propre à l'Espagne. À sa tête, Mimo Agüero, propriétaire des lieux.
Bienvenue au tablao de Carmen. C'est fermé, malheureusement, depuis le 14 de mars. Et on ne sait pas vraiment comment on va faire pour ouvrir les portes.
Les 15 employés du tablao sont au chômage, les danseurs payés au cachet n'ont plus aucun revenu, un silence pesant s'est abattu dans cette salle d'habitude si vivante.
Ouais, pour moi c'est difficile parce que c'est un endroit que c'est ma famille qui a construit l'endroit, qui a dessiné l'endroit tel quel. Mon père était guitariste. Et bon, pour moi, c'est un drame. Mais je crois que c'est plutôt un drame pour la culture de Barcelone. Et c'est dommage que ça disparaisse.
Les touristes représentent entre 70 et 90% de la clientèle des tablaos en Espagne. Sans eux, impossible de rouvrir. La petite entreprise vit aujourd'hui à crédit. Augustin de Bossé, un Français tombé amoureux du flamenco il y a 20 ans, est le gérant de la salle.
Ce ne sont que des étrangers qui viennent. Alors pourquoi ? Parce que ce qu'on voit ici, c'est authentique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir ailleurs. Les artistes, c'est des gens qui vivent ici. La majorité, c'est des gitans. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de difficile d'exporter à l'étranger, sauf dans des théâtres. Donc on va directement à la ruine. Et pour les artistes, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans le même bateau.
Inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, le flamenco est à l'agonie. Le secteur attend sans trop d'espoir une aide de l'État. Mimo Agüero alerte depuis plusieurs semaines les autorités locales, mais elle entend se battre jusqu'au bout.
Je ne suis pas une femme d'entreprise conventionnelle et je crois à cet endroit. C'est un endroit, c'est un peu un mythe à Barcelone. Et bon, mon idée, c'est de continuer, je ne sais pas comment, mais ne pas fermer, et que ça existe. Que ça continue, le flamenco ici.
Rema croit elle aussi à la survie du flamenco. Elle danse tous les jours et elle espère remonter au plus vite sur les planches.
Moi, franchement, je suis certaine qu'on sera bientôt de retour. Le flamenco va revenir.
Henri de la Guéry, à Barcelone pour la Deutsche Welle.
Et d'ici son retour, qu'on espère, ses rythmes et ses notes de flamenco sont à réécouter, à partager en podcast sur le site de la DW, page Vue d'Allemagne. Votre magazine qui se termine justement pour cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, soyez prudents, prenez soin de vous et des autres autour de vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Alles Gute, merci de nous avoir suivis. Bis bald, à très bientôt. Tschüss.